Écoutez bien Radio France Internationale. Il est midi en temps universel, 15h à Jenin.
RFI midi.
C'est l'heure du journal de Marion Kazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Anne Cantner.
Et à la une, un reportage dans cette ville de Jenin en Cisjordanie occupée, lourdement endommagée après une offensive violente de l'armée israélienne.
Lors d'une opération présentée comme antiterroriste et qui a fait une quarantaine de morts, dont des enfants, notre correspondant s'est rendu sur place. Les premiers pas de Michel Barnier en France, premier pas très scruté pour le Premier ministre nommé jeudi, qui doit nommer désormais un gouvernement sans frustrer l'un des trois blocs à l'Assemblée. Il poursuit ses consultations et s'attaque aussi à un autre défi majeur, le budget de l'État. En Russie, une première des scrutins locaux, organisée avec le recours du vote électronique, un système qui permettra à l'avenir des fraudes massives pour les opposants du président Vladimir Poutine. Et puis les anneaux olympiques resteront-ils sur la tour Eiffel? Ce feuilleton agite Paris depuis quelques jours. La maire veut les conserver en souvenir. Pas question pour les descendants de Gustave Eiffel.
Au moins 16 morts ce matin dans une frappe en Syrie, frappe attribuée à Israël.
L'armée israélienne n'a pas commenté, des sites militaires ont été visés et des civils feraient partie des victimes. L'Iran, allié de la Syrie, a condamné une attaque criminelle israélienne selon ses mots.
L'armée israélienne, toujours engagée à Gaza dans sa guerre contre le Hamas, elle multiplie aussi ses raids en Cisjordanie occupée.
Après 10 jours d'une vaste offensive dans le nord qualifiée d'opération antiterroriste, l'armée s'est retirée il y a peu de la ville de Jenin. Elle laisse derrière elle d'importantes destructions, également des victimes, une quarantaine de morts, dont 8 enfants. Sami Bourkhlifal s'est rendu sur place. Reportage.
Jenin, ville en deuil et en ruine. De profonds cratères dans le centre-ville, les routes labourées par les engins de terrassement de l'armée israélienne. Ils ont déterré et brisé les canalisations. Les eaux usées ruissellent dans les rues. Dans le camp de réfugiés de Jenin, les façades des maisons sont criblées de balles. Certaines sont même pulvérisées, comme celle de Aziz Taleb.
Ils ont commencé à tirer directement sur ma maison. Alors on s'est réfugié chez le voisin. L'armée est rentrée chez moi. Les soldats ont lancé une grenade dans ma maison sans sommation. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous ciblent. Mais comme je parle hébreu, je leur dis d'arrêter parce qu'il y a des civils à l'intérieur. Généralement, ça suffit à les calmer. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, c'était pire qu'en 2002.
En 2002, une vaste offensive israélienne à Jenin a profondément traumatisé la population. Plus de 20 ans plus tard, les Palestiniens en parlent encore. Mais cette année, le niveau de violence est inouï. Mohamed El Saadi, 65 ans, est né et a grandi à Jenin. Il n'a jamais rien vu de pareil.
Au nom de la lutte antiterroriste, ils détruisent nos rues, les réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'électricité. Ils détruisent nos maisons, affament nos enfants et nous jettent à la rue avec nos familles. C'est ça la lutte antiterroriste? Pourquoi certains de nos jeunes prennent des armes? Parce qu'ils subissent l'occupation. Lorsqu'un enfant juif israélien est tué, le monde entier s'indigne. Mais nous, notre peuple, lui, peut être exterminé et personne ne s'en soucie.
Depuis le 7 octobre, Jenin a connu plus d'une vingtaine d'attaques israéliennes, confie le vieil homme. Ce sont à chaque fois des expéditions punitives, poursuit-il. Sami Bourkhlifa, Jenin, RFI.
Et toujours au Proche-Orient, dans ce contexte de guerre à Gaza, les Jordaniens s'apprêtent à voter. Élections législatives demain, 2 jours après une fusillade à un poste frontière avec la Cisjordanie occupée, où un Jordanien a tué 3 gardes israéliens. Ce scrutin se déroule aussi dans un climat marqué par une économie morose.
En Algérie, des incohérences dénoncées dans les résultats de la présidentielle d'hier.
Le président Abdelmadjid Tebboune a été réélu avec près de 95% des voix, mais une abstention très forte. C'est justement sur l'affluence que les autorités restent floues. Officiellement, le taux de participation est de 48%, mais ça ne colle pas pour l'opposition qui, en refaisant les calculs, estime qu'il est plus proche des 23%. Et dans un contexte de tension entre Alger et Paris, hier, le président Emmanuel Macron, le président français, a adressé ses plus vives félicitations à son homologue.
Et on reviendra sur la réélection d'Abdelmadjid Tebboune et cette réaction française, les enjeux diplomatiques entre les deux pays, juste après le journal des sports, avec notre invité Jacques Frémaux, historien, professeur émérite à la Sorbonne Université. En France, justement, à droite, à gauche, Michel Barnier poursuit ses consultations en vue de nommer ses ministres.
Le nouveau Premier ministre de droite doit former un gouvernement tout en évitant la censure, menace brandie par certains partis. Et il a un autre défi à affronter, aussi le budget qui devait être présenté initialement le 20 septembre. Si Michel Barnier a demandé un délai à l'Union européenne pour le boucler, Aurélien Devernois, il devra sans doute devoir négocier aussi avec le Parlement.
Oui, car il semble compliqué pour Michel Barnier et son équipe, toujours en cours de formation, de pouvoir présenter le projet de loi de finances. Le 1er octobre, comme prévu, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a ouvert la voie à un report de quelques semaines pour ce qu'il appelle le budget le plus délicat de l'histoire de la Ve République, mais il faudra l'accord des parlementaires. Le Premier ministre semble en tout cas miser sur la continuité. Il a recruté comme directeur de cabinet celui qui occupait le même poste jusque-là auprès du ministre des Finances, Bruno Le Maire, justement, qui doit être auditionné par la commission des Finances de l'Assemblée ce lundi, et l'accueil promet d'être glacial, le précédent gouvernement ayant omis de transférer les informations budgétaires au Parlement avant le 15 juillet, comme la loi le prévoit. Michel Barnier risque donc de faire face à une offensive juridique, couplée à la menace des oppositions de censurer son gouvernement si la rigueur annoncée s'annonce trop forte. Or, l'addition des voix du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire suffirait à faire tomber le Premier ministre et son équipe.
Aurélien Devernois du service politique de RFI.
On reste en France, Marion, avec ce procès contre 8 militaires à Paris.
Dont plusieurs hauts gradés de l'armée, ainsi qu'un sous-traitant, une entreprise de logistique. Le procès débute cet après-midi à Paris. Ils sont soupçonnés de corruption et de favoritisme, notamment d'avoir, dans les années 2010, surfacturé plusieurs marchés de logistique. Franck Alexandre, cela concerne notamment le transport aérien pour des opérations extérieures de l'armée française.
Et parmi les prévenus, l'ancien chef d'état-major du Centre du soutien et des acheminements militaires, le CSOA, le colonel Rive comparé pour favoritisme, corruption passive, violation du secret professionnel et prise illégale d'intérêt. Sur le banc des prévenus également, le président de la Société internationale Chartering System, ICS. C'est un rapport de la Cour des comptes, Marion, qui a révélé l'affaire. En 2016, étudiant le coût des OPEX, les magistrats de la rue Cambon s'interrogent sur le surcoût des prestations offertes par la société ICS pour acheminer la logistique militaire. À cette époque, l'armée française a régulièrement recours au très gros porteur Antonov 124, une ressource rare mise en œuvre par deux prestataires extérieurs. Ces appareils sont affrétés soit par ICS, soit par Salis, l'agence de soutien de l'OTAN, sauf qu'entre les deux, les factures d'ICS sont bien plus lourdes. Les investigations ont mis en lumière des soupçons de favoritisme pour un surcoût estimé de plus de 16 millions d'euros, avec dans la balance au moins une promesse d'embauche par ICS de l'un des prévenus. Une affaire de corruption et de favoritisme présumé qui fait tâche donc, alors que chaque euro sera soupesé à l'heure de l'élaboration du budget de l'État.
Précision signée Franck Alexandre. Dans l'Est ukrainien, l'armée russe continue de grignoter du terrain. Elle revendique aujourd'hui la prise d'un nouveau village dans le Donbass et se rapproche ainsi de plus en plus de la ville stratégique de Pokrovsk. Une avancée rapide face à l'armée de Kiev en manque de bras et de munitions.
En Russie, sans surprise, les candidats proches du président devraient remporter haut la main des élections locales.
Et qui se sont déroulées ce week-end avec une nouveauté lors de ce scrutin, le recours au vote électronique. Cette procédure doit être étendue au fur et à mesure dans tout le territoire. Ce mode de scrutin est particulièrement contesté par les opposants du pays, ou ce qu'il en reste. Anissa El-Jabri a rencontré l'un d'entre eux, aujourd'hui membre d'une commission électorale à Khabarovsk, dans l'extrême-orient russe. Il craint que cela permette des fraudes massives. Pour des raisons de sécurité, sa voix a été changée, nous ne donnons pas non plus son nom.
Premièrement, en tant que membre de commission électorale, je dois signer le protocole des résultats du vote. Je confirme, j'ai vu que des gens sont venus voter et que personne n'a déposé de bulletin supplémentaire, que nous avons retiré et dépouillé tous les bulletins de vote honnêtement, que nous les avons comptés selon la loi. Je confirme avec ma signature que j'ai tout regardé, que toutes les procédures sont transparentes. Avec le vote électronique, nous avons une situation où le serveur informatique, dont on ne sait pas qui le contrôle, affiche un résultat que je devrais signer même si je ne peux pas le vérifier. Étaient-ce les vrais électeurs ? Les électeurs étaient-ils sous pression ? Le secret du vote était-il assuré ? Je ne peux pas confirmer tout cela. Deuxièmement, cette technologie offre d'énormes possibilités d'ajouter des votes supplémentaires et de manière très discrète. Vous pouvez jouer avec des nombres et montrer un résultat que personne n'est en mesure de pouvoir contester.
Un opposant russe de Khabarovsk, propos recueillis par notre correspondante Anissa El-Jabri.
La Corée du Nord, proche de la Russie, pourrait se rapprocher d'un autre de ses voisins, la Chine.
Pékin, en tout cas, veut relancer le dialogue. Le président chinois Xi Jinping a adressé une lettre à Kim Jong-un à l'occasion de l'anniversaire du régime nord-coréen. Dans cette lettre, il lui a fait part de sa volonté de renouer avec lui. Leur relation s'est étendue après le rapprochement cet été entre la Corée du Nord et la Russie. À Séoul, correspondance régionale de Célio Fioretti.
Ce message, le premier en 8 mois, intervient alors que les relations entre Pyongyang et Pékin se sont relativement distendues, contrastant avec le rapprochement de la Corée du Nord avec la Russie. Les deux pays ont signé au mois de juin un traité de défense mutuelle, de fait une alliance militaire. Bien que la Chine et la Corée du Nord restent des partenaires stratégiques, le commerce entre les deux pays n'a cessé de diminuer depuis plusieurs mois. La communication de Pékin est devenue presque inexistante. Plus de visites officielles ni de messages de soutien lors de grands événements comme les inondations qui ont frappé la Corée du Nord au mois d'août. La Chine semble se méfier du rapprochement nord-coréen avec la Russie qu'elle ne voit pas d'un bon œil. Du côté nord-coréen, la participation en mai de la Chine à un sommet tripartite avec ses ennemis sud-coréens et japonais a pu refroidir les relations entre les deux partenaires historiques. Une lettre qui vise donc à apaiser les tensions, mais sans pour autant s'attaquer aux problèmes de fond du couple sino-nord-coréen. Sergio Fioretti, Séoul, RFI.
Des maisons détruites, des inondations, des millions de foyers privés d'électricité et surtout des dizaines de victimes au Vietnam.
Après le passage du super typhon Yaji, les météorologues considèrent qu'il est le plus puissant à avoir balayé le pays au cours des 30 dernières années. Le bilan est déjà lourd. Pauline Glaise, plusieurs sources font état de 59 morts au Vietnam.
Oui, la plupart d'entre elles ont été victimes de glissements de terrain et de crues soudaines. Et le bilan pourrait encore évoluer. Marion, plus de 200 blessés ont été recensés. Les autorités alertent encore sur un risque élevé d'inondations et d'éboulement dans de nombreuses localités. Ce typhon a déjà lourdement affecté les infrastructures. Ses rafales de vent à quelques 150 km/h ont arraché le toit de tôle de maisons. Des ponts se sont effondrés. Ce matin, au nord-est d'Hanoï, un viaduc s'est écroulé emportant avec lui des véhicules dans les eaux du fleuve Rouge. 13 personnes sont portées disparues. Et au-delà du bilan humain, Yaji a plongé une partie de la population dans le noir. Si le courant revient peu à peu, 1,5 million de personnes étaient encore privé d'électricité ce lundi. Les coupures ont également affecté des entreprises dans cette région qui abrite des fournisseurs de géants de l'électronique comme Samsung et Foxconn. Certains ateliers sont d'ailleurs sinistrés. Avant de frapper le Vietnam, le typhon a balayé le sud de la Chine et les Philippines, laissant derrière lui au moins 24 morts.
Pauline Glaise du service climat-environnement de RFI. L'actualité en Asie du Sud-Est, c'est aussi cette visite du pape François au Timor oriental, un tout jeune état, tout petit aussi près de l'Indonésie, marqué par des scandales de pédocriminalité dans l'église, des scandales longtemps dissimulés. Sur place, le pape a appelé les dirigeants du pays à prévenir toute forme d'abus concernant la pédocriminalité. Il a aussi salué la nouvelle ère de paix et de liberté au Timor oriental, 20 ans après son indépendance de l'Indonésie voisine. C'est l'avant-dernière étape de son voyage dans la région, le plus long et le plus lointain qu'il ait jamais entrepris. Après l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et donc le Timor oriental, il terminera ce périple à Singapour.
Les estrades démontées, les stades vidés, nettoyés. Paris efface les derniers souvenirs des Jeux 2024.
Les Jeux paralympiques se sont achevés hier lors d'une soirée de clôture au Stade de France avec tous les para-athlètes, aussi les friges, notamment mascottes de ces Olympiades, survoltées, toutes pailletées pour l'occasion. Donc plus de friges, plus d'épreuves, plus de médailles, mais quand même quelques traces qui restent pour l'instant dans la capitale, notamment sur la Tour Eiffel. La maire de Paris, Anne Hidalgo, souhaite que les anneaux olympiques restent sur le monument au moins jusqu'en 2028 pour les prochains Jeux, ceux de Los Angeles aux États-Unis. Mais de nombreuses voix s'élèvent contre ce projet, et notamment au sein même de la famille Gustave Eiffel, Sylvie Coffi.
Les anneaux olympiques sont les symboles majeurs qui nous rappelleront que les Jeux n'étaient pas juste une parenthèse. Ainsi s'exprime la maire de Paris qui souhaite prolonger la magie des Jeux. Cette position ne fait pas l'unanimité et a déclenché une levée de boucliers au sein même de la famille Eiffel. Les héritiers, heureux que les anneaux aient été associés à la Dame de Fer cet été, ne comprennent pas pourquoi ils devraient rester accrochés au-delà des Jeux olympiques. Colorés, d'une taille importante, les anneaux créent un déséquilibre et modifient les formes épurées du monument, estiment les héritiers. Les descendants de l'ingénieur Eiffel peuvent en effet s'opposer à tout ce qui peut altérer ou porter atteinte au respect de l'œuvre de leur ancêtre. Ils souhaitent en effet que les anneaux qui marquent la fin de Paris 2024 soient transmis à leur tour à la ville de Los Angeles et au plus tard d'ici la fin de l'année.
Une précision de Sylvie Coffi.
Merci Marion Cazanov et merci à tous d'être avec nous. Tout de suite, c'est le journal des sports. où l'on reparle évidemment des Paralympiques. Cette fois, les Jeux sont faits, Thomas de Saint-Léger. La flamme paralympique s'est éteinte hier soir à Paris.
À Paris et dans nos yeux, un petit peu aussi. Une parenthèse d'un mois et demi refermée comme elle s'était ouverte au début des Jeux Olympiques, sous la pluie et dans la joie, avec une cérémonie de clôture en forme de grand concert de musique électronique pour faire danser encore une fois les athlètes. Et notre monsieur jeu, Christophe Diremzian, oui, il y a une vidéo qui circule, très réussie en tout cas, cette cérémonie à l'image de ces Jeux paralympiques, peut-être les meilleurs de l'histoire, meilleurs encore que la référence Londres 2012. Ce sont les échos que reçoit le chef de mission de l'équipe de France, Mickaël Jérémias.
Moi, j'étais très très soucieux de savoir ce que les étrangers en pensaient. Et en fait, ils sont dithyrambiques. Et j'ai beaucoup d'amis athlètes et encadrants anglais. Ils m'ont dit, on est ultra fiers de ce qu'on avait fait en 2012 et on sait qu'on a mis la barre haute. Vous avez organisé les plus grands Jeux paralympiques de l'histoire. Donc c'est évidemment une fierté parce que c'est beaucoup de boulot. On n'a pas la même culture qu'en Angleterre, on vient de plus loin. Eux, ils ont réussi à faire extraordinaire il y a 12 ans. Il nous a fallu 12 ans pour être à la hauteur de l'enjeu. Donc ouais, c'est évidemment une fierté. Après, c'est potentiellement l'arbre qui cache la forêt, la question de l'accessibilité. Oui, l'accessibilité des sites de compétition. La réalité, c'est que l'accessibilité au global, on a là énormément de travail à faire. C'est pas uniquement de faire comme pour la cérémonie d'ouverture, de mettre un peu de goudron pour qu'on soit pas emmerdé avec des pavés. Le goudron, il est enlevé quelques heures après. Donc comment on va, de manière plus structurée, s'assurer que ces enjeux-là soient engagés? Ce serait le début peut-être d'une accélération de cette transformation.
Mickaël Jérémias avec Christophe Diremzian.
On en a beaucoup moins parlé pendant ces Jeux, mais il y a bien du football en ce moment avec l'équipe de France qui joue ce soir.
Face à la Belgique à Lyon pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Nations, compétition que les Bleus ont entamée du mauvais pied avec une défaite qui a fait mal face à l'Italie vendredi dernier, défaite 3-1 au Parc des Princes à Paris, tout cela dans la foulée d'un euro moyen. Cet été, les critiques pleuvent avec en première ligne le sélectionneur Didier Deschamps qui, ne vous inquiétez pas trop, a l'habitude de tout ça.
De par ma fonction, j'ai toujours assumé l'entière responsabilité, même vis-à-vis des joueurs, ce qui m'empêche pas de leur dire ce que je pense peut-être différemment. Après, les critiques, elles ont toujours été là. Moi, je suis pas là pour juger qu'un a bien parlé ou bien écrit ou mal écrit. Je vis pas dans un bunker, donc je croise beaucoup de personnes diverses et variées. Oui, bah, que les gens, ils vont pas, les supporters, ils vont pas être contents qu'on ait perdu 3-1. Après, il y en a d'autres, certains qui diront certaines choses, d'autres un peu plus. Ça fait partie de ma vie de sélectionneur.
Didier Deschamps qui devrait se passer au coup d'envoi de ce match face à la Belgique de son capitaine Kylian Mbappé, ménagé hier, toujours pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Nations. L'Espagne, championne d'Europe, est allée gagner en Suisse 4-1. Le Portugal a battu l'Écosse 2-1 avec un nouveau but de Cristiano Ronaldo, son 132e en sélection à bientôt 40 ans.
Lui n'en a que 23, mais il est plus que jamais numéro 1 du tennis mondial. L'Italien Yannick Sinner a remporté l'US Open hier à New York.
Le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière et de sa saison après l'Open d'Australie en début d'année. Yannick Sinner a facilement dominé en finale l'Américain Taylor Fritz, 6-3, 6-4, 7-5.
Et puis en basket, c'était annoncé, c'est officiel, Vincent Collet n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France masculine.
Une séparation d'un commun accord après 15 ans sur le banc des Bleus, 8 médailles européennes, mondiales et olympiques, dont le seul titre d'ailleurs de l'équipe de France dans son histoire, l'Euro 2013.
C'était le journal des sports de Thomas de Saint-Léger. L'actualité sportive est aussi, vous le savez, sur internet, rfi.fr.
RFI, le monde à midi.
Le président algérien garde son poste, on en parlait il y a quelques minutes dans le journal. Abdelmadjid Tebboune a été réélu hier avec 95% des voix, mais peu de participation. Le score est sans appel et contesté, ce qui n'a pas empêché Emmanuel Macron d'adresser dès hier soir ses plus vives félicitations au président algérien, ainsi que ses meilleurs vœux de succès. Bonjour Jacques Frémaux.
Oui, bonjour.
Vous êtes historien, professeur émérite à l'université de la Sorbonne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le plus récent, La guerre d'indépendance, qui est paru aux éditions du Cerf. C'est plutôt chaleureux comme réaction de la part du président français. Est-ce que c'est habituel après une élection présidentielle en Algérie ?
Bon, c'est habituel après toutes les élections présidentielles, pratiquement. Oui, c'est une, disons que c'est une coutume diplomatique, de toute façon, qui n'engage à rien.
Le ton est le même que lors des dernières élections algériennes.
J'ai l'impression, oui, j'ai pas senti de différence.
Alors, dans son message, Emmanuel Macron insiste sur la relation exceptionnelle entre Alger et Paris. Pourtant, cette relation, elle est de nouveau mise à mal depuis la prise de position de la France sur le Sahara occidental. Je rappelle pour nos auditeurs, le Sahara occidental, c'est une région disputée, considérée par le Maroc comme une partie intégrante de son territoire, mais où des militants du Front Polisario réclament l'indépendance. Et ces militants sont soutenus par l'Algérie. Fin juillet, Paris s'est aligné sur la position marocaine et ça avait beaucoup déplu à l'Algérie.
Oui, alors bon, on va dire que d'abord que les relations entre la France et l'Algérie sont exceptionnelles. C'est presque une évidence, étant donné l'histoire très contestée, mais malheureusement, enfin heureusement indubitable, de relations entre la France et l'Algérie avec l'épisode colonial de 1830 à 1962, et les relations toujours privilégiées, ne serait-ce qu'à cause de l'immigration algérienne en France, hein, donc ce sont des éléments évidemment extrêmement importants. En ce qui concerne la position de la France, c'est vrai que la France s'est alignée sur la position marocaine, disons que c'était la position de la plupart des puissances alliées de la France et notamment des États-Unis. Hein, donc ça n'a pas là aussi, c'est peut-être un peu tardif par rapport aux autres, mais enfin c'est un mouvement qui est à peu près le même. Hein, donc là aussi, ça n'est pas véritablement une grande surprise.
Et pourtant, depuis ce moment-là, il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris. Est-ce qu'on peut quand même parler de relations exceptionnelles entre les deux pays ?
Bah actuellement, c'est-à-dire elle le reste quand même parce qu'on comprend très bien que il peut pas y avoir de rupture durable, si vous voulez, les éléments de proximité, les éléments de relation entre la France et l'Algérie, qui soient culturels, qui soient économiques, qui soient encore une fois portant sur les démographiques, portant sur l'immigration, sont trop importants. Donc il est bien évident que ces relations sont appelées tôt ou tard à se normaliser. Bon, maintenant, dans quelles conditions est-ce que l'Algérie ne va pas exiger en échange un certain nombre de conditions par rapport à la France, c'est possible.
Alors, dans son message de félicitations, Emmanuel Macron parle aussi de la mémoire, ce qui est vraiment l'un des points particulièrement sensibles. Vous qui avez écrit sur la guerre d'indépendance, qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Est-ce qu'on avance effectivement vers des rapports plus sereins entre Paris et Alger sur ce point ?
Mais écoutez, je fais partie de la commission mixte franco-algérienne qui existe depuis un an et qui avait été créée donc par par les deux présidents de la République d'ailleurs conjoints pour avancer sur ces questions. On peut dire que nous avons travaillé donc d'une manière assez collégiale et assez amicale depuis un an en ce qui concerne les archives, en ce qui concerne la possibilité d'échanger des chercheurs. Évidemment, mais il reste quand même beaucoup à faire. Les deux discours français et algérien étant quand même encore très éloignés de l'autre. Hein.
Il y a aussi un autre point qui est particulièrement compliqué, c'est celui de l'immigration. Est-ce que vous trouvez que la coopération fonctionne mieux qu'avant ou non ?
Actuellement, elle fonctionne très mal puisque les OQTF sont suspendus depuis la rupture diplomatique. Et d'autre part, le gouvernement algérien tient beaucoup à maintenir le traité de 1968 qui accorde un certain nombre d'avantages aux immigrants d'origine algérienne, alors que le gouvernement français a plutôt tendance à vouloir le renégocier et ça pourrait même, c'est même ce que une mesure que le nouveau gouvernement nommé par le président de la République pourrait avoir tendance à reprendre lui-même. Donc il n'est pas sûr non plus là que les choses aient tendance à s'améliorer.
C'est quand même un point sur lequel l'Algérie peut faire pression. Est-ce que ça pourrait lui permettre d'obtenir un certain nombre d'engagements de la part de Paris dans d'autres secteurs ?
Je ne sais pas, parce que si vous voulez, le problème de l'Algérie, il faut voir ça de manière très globale. L'Algérie actuellement est un pays diplomatiquement très isolé, puisqu'elle est brouillée, bon, avec la France, mais ça, tout peut s'arranger, bien sûr, il n'y a pas de rupture définitive, mais elle est brouillée avec la France, elle est brouillée avec pratiquement tous ses voisins d'Afrique, du continent africain. Il est finalement le seul pays avec lequel elle est en très bonne relation, c'est la Russie. Bon, les relations, évidemment, la position diplomatique de la Russie n'est pas non plus de nature à faciliter les contacts ou à faciliter les médiations. Vous voyez, donc, l'Algérie, je ne sais pas si l'Algérie peut vraiment obtenir quelque chose de manière, peut vraiment agir, même en utilisant ce volet sur l'immigration.
Et le fait que l'Algérie soit en ce moment membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre non permanent, est-ce que ça change quelque chose dans les rapports avec Paris ?
Non, je ne crois pas, parce que la France, de toute façon, est membre aussi permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto, ce que n'a pas l'Algérie. Et d'autre part, on sait que malheureusement, le Conseil de sécurité, l'ONU actuellement, joue quand même un rôle assez effacé. Donc, il peut y avoir des proclamations, mais là aussi, je ne sais même pas si à l'ONU, l'Algérie obtiendrait beaucoup d'aide de la part même des pays non engagés, enfin, ou des pays, disons, de l'ancien, de l'extérieur-monde.
Je vous remercie, Jacques Frémaux, d'avoir été en ligne avec nous, historien, professeur émérite à Sorbonne Université. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « La guerre d'indépendance », qui a été publié aux éditions du Cerf. Reportage aux États-Unis. Nous sommes à la veille du premier débat entre les deux candidats à la présidentielle de novembre, Kamala Harris et Donald Trump. Tous les deux au coude à coude dans les sondages avec une très légère avance à la candidate démocrate au niveau national. En revanche, c'est très serré dans les 6 États clés, ces États qui peuvent faire basculer l'élection. C'est le cas notamment dans le Michigan où le vote arabo-musulman pourrait être décisif. Reportage à Dearborn dans la banlieue de Détroit. C'est la ville qui abrite la plus large population originaire de pays arabes ou du Moyen-Orient de tous les États-Unis. Et notre envoyée spéciale Anne Verdaguer s'y est rendue pour rencontrer des électeurs.
Il faut un cessez-le-feu immédiat. Ils doivent arrêter d'envoyer des armes à Israël. Ils doivent arrêter de commettre ce génocide.
Alors que la rentrée universitaire bat son plein à la faculté de Wayne State de Détroit, quelques dizaines d'étudiants se sont rassemblés pour protester contre la politique de l'administration Biden face à la situation à Gaza. À quelques kilomètres de là, à Dearborn, la plus grande mosquée d'Amérique, l'Islamic Center of America, avec son dôme doré et ses 2 minarets. Wally Harpe nous y reçoit, il est l'un des membres du conseil d'administration.
Nous étions contents du changement de candidat avec Harris, mais nous attendons encore un changement de politique et des actions concrètes, car les discours ne changent rien. Les États-Unis fournissent des armes, un soutien tactique, du renseignement à Israël, et l'administration Biden-Harris est complice de ce qu'il se passe actuellement. Et ils ont les moyens d'arrêter tout cela, mais ils ne le font pas.
Pour comprendre l'état d'esprit des habitants de Dearborn, il suffit de regarder sur les murs ou dans les cafés. Des œuvres d'artistes locaux proclament « Libérer la Palestine » ou bien « Netanyahu Biden, criminel de guerre ». Au deuxième étage d'un immeuble ancien, l'avocat et ancien procureur fédéral Abed Hamoud confirme la tendance générale.
Au niveau de la communauté musulmane et arabe, il n'y a personne qui croit que Biden-Harris sont sincères au niveau de ce qu'ils disent à propos du cessez-le-feu. Depuis 34 ans que je suis aux États-Unis, c'est la première fois que je vois une élection au niveau de notre communauté qui se joue uniquement sur le sujet Moyen-Orient et la guerre au Gaza. Mais je peux vous dire, sans gagner Michigan, les démocrates ne peuvent pas gagner. Ça, c'est sûr. S'ils la perdent, ils perdent les élections, très probablement. Notre vote est très important et pour l'instant, je peux vous dire qu'elle ne l'a pas.
En 2016, Hillary Clinton a perdu de seulement 10 000 voix l'État du Michigan. À l'époque, la population arabo-musulmane était très motivée pour faire élire la candidate démocrate, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Au journal The Arab American News, le directeur de publication a rencontré le chef de campagne de Kamala Harris il y a 2 semaines de cela.
J'ai quitté la réunion sans être convaincu qu'elle change quoi que ce soit. Ce n'est pas étonnant. Elle fait partie de cette administration. C'est la vice-présidente. Elle ne va pas contredire la politique de Biden, ni maintenant, ni plus tard, si elle est élue. Et si nous ne voyons pas un arrêt des massacres et du nombre de morts avec une feuille de route pour stopper ce conflit, nous ne donnerons notre soutien à aucun candidat.
Une ville partagée entre tristesse et colère envers l'administration Biden, dont le soutien à Israël. Il est sera sans aucun doute des traces. Anne Verdaguer, Détroit, RFI.
Merci d'être avec nous sur RFI. Vous restez à l'écoute. On se retrouve dans 30 secondes maintenant pour l'actualité africaine. Ce sera avec Nicolas Sûr. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Mahami et The Lipstick Queens. Malik Doudi.